Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, en écoutant tranquillement la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Tout d'abord, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Question classique, qui va commencer à lire et quel est le roman que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui ?
Eh bien, ce sera « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes. Alors, c'est un roman assez ancien, hein. C'est un roman américain paru en 1966 et c'est un roman de science-fiction.
Science-fiction, oui. Oui. Ce qui ne nous arrive pas très souvent. Il ne nous arrive pas très souvent de lire de la science-fiction, à part...
On pourrait même dire jamais.
Chronique martienne.
Ah oui,
Chronique martienne,
oui.
Qu'on avait lu en feuilleton pendant l'été, il y a 2 ans, je crois.
Voilà.
En feuilleton, c'est dire
en feuilleton.
C'était une émission.
Ah oui, à rallonge.
Ça s'y prêtait,
ouais,
chronique.
Ouais, ouais. Voilà.
Chronique martienne, on
non,
avait
mais
lu les chroniques.
Tu ne te trompes pas du tout. Alors, il faut ajouter que ce roman a été plusieurs fois adapté au cinéma et à la télévision. C'est donc un classique. Donc, américain, comme j'ai dit... Alors, ça a une importance de préciser ça parce que l'approche de la déficience mentale dont il est question peut être très différente d'une époque à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc, on prévient les auditeurs, faut pas être choqué en entendant des mots comme arriéré ou d'autres qu'on n'utilise plus aujourd'hui.
Non, arriéré, ça ne s'utilise plus,
voilà.
Je confirme.
C'est assez rare.
Mais là, nous sommes dans les années 60 aux USA, donc l'approche de la déficience est très différente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Eh bien, pour en savoir un petit peu plus, peut-être que vous pouvez nous lire la quatrième de couverture.
Ah, et cette fois, c'est moi qui vais lire. Algernon est une souris dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent, avec l'assistance de l'enseignante spécialisée Alice Kinian, d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire éveil à la conscience pour le jeune homme de 32 ans. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu. Et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner.
Intéressant, ça a l'air intéressant tout ça.
Ça va être passionnant.
On commence la lecture ?
Eh bien, c'est pas dur, hein. Et c'est Hervé qui va lire aujourd'hui.
On n'avait pas répondu à la question.
Exactement, donc je réponds, tu vois.
Mars. J'ai passé un test aujourd'hui. Je pense que je les ai ratés. Et je pense que maintenant... ils m'utiliseront pas. Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé au bureau du professeur Nemur à l'heure de mon déjeuner et sa secrétaire m'a emmené à un endroit marqué « Service psycho » sur la porte, avec un long couloir et un tas de petites pièces avec seulement une table et des chaises. Et un gentil monsieur était dans une des pièces et il avait des cartes blanches avec de l'encre renversée dessus. Et il a dit « Assieds-toi, Charlie, et mets-toi à l'aise et détends-toi ». Il avait une blouse blanche comme un docteur, mais je pense pas qu'il était un docteur parce qu'il m'a pas dit d'ouvrir la bouche et de dire « Ah ». Il avait que ses cartes blanches. Il s'appelle Burt. J'ai oublié son autre nom parce que je me rappelle pas tellement bien. Vous savez pas ce qu'il allait faire ? Je savais pas ce qu'il allait faire et je me cramponnais à la chaise, comme quand je vais quelquefois chez le dentiste. Seulement Burt n'est pas un dentiste non plus. et il continuait de me dire de me détendre, et cela me faisait peur, parce que cela veut toujours dire que cela va faire mal. « Bien, » a dit Burt. « Charlie, qu'est-ce que tu vois sur cette carte ?» Je voyais de l'encre et j'avais très peur, même avec ma patte de lapin dans ma poche, parce que quand j'étais petit, je ratais toujours les tests à l'école et je renversais aussi de l'encre. Je ne me rappelle pas très bien ce que Burt a dit, mais je me rappelle qu'il voulait que je dise ce que je voyais dans l'encre. Je voyais rien dans l'encre, mais Burt dit qu'il y avait des images. Je voyais pas d'images. J'essayais vraiment d'en voir. J'ai regardé la carte de tout près, puis de très loin. Ensuite, j'ai dit que si j'avais des lunettes, je pourrais probablement mieux voir. Je mets ordinairement mes lunettes qu'au cinéma ou pour regarder la télé, mais j'ai dit peut-être qu'elles m'aideront à voir les images dans l'encre. Alors je les ai mises et j'ai dit « Rendez-moi la carte de je parie que maintenant je trouverai l'image. » J'ai essayé tant que j'ai pu, mais j'ai encore pas pu trouver les images. Je voyais que de l'encre. J'ai dit à Burt que j'avais peut-être besoin de nouvelles lunettes. Il a écrit quelque chose sur un papier et j'ai eu peur de rater le test. Alors je lui ai dit que c'était une belle image d'encre avec des jolies pointes tout autour sur les bords. Mais il a secoué la tête. C'était pas ça non plus. Je lui ai demandé si d'autres gens voyaient des choses dans l'encre. Et il a dit « Oui, ils imaginent des images dans la tache d'encre. » Il m'a dit que l'encre sur la carte s'appelle une tache d'encre. Burt est très gentil et il parle lentement comme Miss Kinyan. Je fais dans sa classe pour adultes attardés où je vais apprendre à lire. Il dit que des gens voient des choses dans l'encre. Je lui ai demandé de me montrer où. Il ne m'a pas montré, mais il a continué à dire « Pense, imagine qu'il y a quelque chose sur la carte. » Je lui ai dit « Je pense à une tache d'encre. » Il a secoué la tête, c'était pas encore bon. Il a dit « Dis-moi à quoi cette tache te fait penser. Imagine que tu vois quelque chose. » Qu'est-ce que ça pouvait être ? J'ai fermé les yeux un bon moment, pour imaginer, et j'ai dit « J'imagine une bouteille d'encre renversée sur une carte blanche. » À ce moment, la pointe de son crayon s'est cassée, et nous nous sommes levés et nous sommes sortis. 11 mars. L'opération ne m'a pas fait mal. Le docteur Strauss l'a faite pendant que j'étais endormi. Je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas vu, mais j'ai eu des pansements sur les yeux et sur la tête pendant 3 jours et je n'ai pas pu faire de compte rendu jusqu'à aujourd'hui. L'infirmière toute maigre qui me regardait écrire a dit que je fais des fautes et elle m'a dit comment s'écrit compte et aussi rendu. Il faut que je me souvienne. J'ai une très mauvaise mémoire pour l'orthographe. En tout cas, ils ont enlevé les pansements de mes yeux aujourd'hui et je peux écrire un compte rendu. Mais j'ai encore des pansements autour de la tête. J'ai été effrayé quand ils sont entrés et qu'ils m'ont dit que le moment était venu pour l'opération. Ils m'ont fait passer du lit sur un autre lit avec des roulettes qu'ils ont poussées hors de la chambre et le long du couloir jusqu'à la porte qui est marquée « Chirurgie ». Ça alors que j'ai été surpris. C'est une grande salle avec des murs verts et un tas de docteurs assis en haut tout autour de la salle qui regardent l'opération. Je ne savais pas que ça allait être comme un spectacle. Un monsieur s'est approché de la table tout en blanc, avec un tissu blanc sur la figure, comme on voit à la télé, et des gants de caoutchouc. Et il a dit « Détends-toi, Charlie, c'est moi, le docteur Strauss. » J'ai dit « Bonjour, docteur, j'ai peur. » Il a dit « Mais non, Charlie, n'aie pas peur, on va simplement t'endormir. » J'ai dit « C'est ça dont j'ai peur. » Il m'a caressé la tête, puis deux hommes qui portaient aussi des masques blancs sont venus et m'ont attaché les bras et les jambes et je ne pouvais plus les bouger. Et ça m'a fait très peur, j'avais l'estomac serré comme si j'allais vomir. Mais je n'ai que mouillé un petit peu le lit et j'allais me mettre à pleurer, mais ils m'ont mis un machin en caoutchouc sur la figure pour que je respire dedans et ça avait une drôle d'odeur. Pendant ce temps, j'entendais le docteur Strauss qui parlait tout haut de l'opération et qui disait à tout le monde ce qu'il allait faire. Mais je n'y comprenais rien et je me disais que peut-être après l'opération, je serais intelligent et je comprendrais tout ce qu'il dit. J'ai respiré profondément et puis je suppose que je devais être très fatigué parce que je me suis endormi. 20 mars. Je vais retourner travailler à la boulangerie. Le docteur Strauss a dit au professeur Némur qu'il valait mieux que je retourne travailler. Mais je ne peux toujours pas dire à personne pourquoi on m'a opéré. Et il faudra que je vienne au laboratoire 2 heures tous les soirs après mon travail pour mes tests et pour écrire ces rapports idiots. Ils vont me payer toutes les semaines comme si c'était un travail supplémentaire parce que cela faisait partie de l'arrangement quand ils ont reçu de l'argent de la fondation Wellberg. Je ne sais toujours pas ce qu'est cette affaire Wellberg. Miss Kinyan me l'a expliqué mais je ne comprends toujours pas. Si je ne deviens pas intelligent, pourquoi vont-ils me payer pour écrire ces bêtises? S'ils me payent, je le ferai, mais c'est très difficile d'écrire. Algerdon me bat toujours dans cette course du labyrinthe, parce qu'elle a eu elle aussi cette opération. C'est une souris spéciale, le premier animal qui reste intelligent si longtemps après l'opération. Je ne savais pas que c'était une souris spéciale. Cela fait une différence. Je pourrais probablement traverser ce labyrinthe plus vite qu'une souris ordinaire. Peut-être qu'un jour, je battrai Algernon. Eh bien, ça sera quelque chose. Le docteur Strauss dit que, jusqu'à maintenant, on dirait qu'Algernon pourrait rester définitivement intelligente et il dit que ce serait une bonne chose parce que nous avons eu tous les deux la même opération.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénue qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vides d'égoulement dans des bras sans avenir. Ici, la dope, c'est à la poignée. Petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises. La nuit, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée rentre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Bien, intéressant cette façon de rédiger les comptes rendus.
N'est-ce pas ?
Alors donc c'est toujours Charlie Gordon qui va raconter l'histoire.
Oui, du début à la fin. Mais alors il le fait avec ses mots. Et au début donc il est déficient intellectuel. Donc là j'ai lu des pages qui étaient bourrées de fautes d'orthographe, où les mots étaient à peine différenciés, ce qui n'est pas si facile à lire que ça quand même. Alors j'ai essayé de le retranscrire par une lecture hachée. Voilà. Mais je rassure les auditeurs, hein, ça va s'améliorer par la suite.
C'est une prouesse d'écriture aussi, hein, du coup.
Ouais, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Ça ne doit pas être si simple comme ça pour un écrivain de se forcer à faire des fautes d'orthographe.
Et en plus, c'est écrit en anglais, en américain au départ.
En plus,
donc c'est traduit.
Mais tu le sais.
Non, mais c'est traduit. Oui. Et donc il y a le boulot du traducteur.
Exact,
derrière.
Mais c'est vrai.
Ah oui,
ah oui, tout à fait. Oui, ça a été un sacré boulot. Oui.
Ouais, ouais.
D'autant que ça a été édité plusieurs fois. Donc y a-t-il eu plusieurs éditions, donc plusieurs traducteurs ? Bien possible.
C'est possible. Ouais. Eh bien, on a hâte de savoir la suite. On reprend ?
Eh oui. J'ai mal à la tête. Ce n'est pas à cause de cette télé cette fois. Le docteur Strauss m'a montré comment régler la télé très bas et maintenant je peux dormir, je n'entends plus rien. Et je ne comprends toujours pas ce qu'elle dit. Quelquefois, je la fais répéter le matin pour voir ce que j'ai appris avant de m'endormir et pendant que je dormais et je ne connais même pas les mots. Peut-être que c'est une autre langue ou je ne sais quoi. Pourtant, la plupart du temps, on dirait de l'américain. Mais elle parle trop vite. J'ai demandé au docteur Strauss quel intérêt cela a de devenir intelligent quand je dors, alors que moi, je veux être intelligent quand je suis éveillé. Il dit que c'est la même chose, que j'ai deux esprits. Il y a le subconscient et le conscient. Et l'un ne dit pas à l'autre ce qu'il fait. Ils ne se parlent même pas l'un à l'autre. C'est pourquoi je rêve. Ah, alors ce que j'ai eu des drôles de rêves. Oh là là, toujours depuis cette télé de nuit. J'ai oublié de demander au docteur Strauss si c'est seulement moi qui ai deux esprits comme ça et pas les autres. Je viens de regarder le mot dans le dictionnaire que le docteur Strauss m'a donné. Subconscient se dit des processus psychologiques qui échappent à la conscience. Par exemple, un conflit subconscient de désir. Il y en a plus long, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas un très bon dictionnaire pour des gens bêtes comme moi. En tout cas, le mal de tête vient de la soirée au Aloan Bar. Joe et Frank m'ont invité à y aller avec eux après le travail pour prendre quelques verres. Je n'aime pas boire du whisky, mais ils disaient que nous nous amuserions bien. Je me suis bien amusé. On a joué à des jeux, j'ai dansé sur le bar avec un abat-jour sur la tête et tout le monde riait. Puis Joe a dit que je devrais monter aux filles comment je nettoie les toilettes à la boulangerie et il m'a donné un balai. Je leur ai montré et tout le monde a ri quand je leur ai dit que M. Donner disait que pour l'entretien et les courses, j'étais le meilleur ouvrier qu'il ait jamais eu parce que j'aime mon travail et que je le fais bien et que je n'ai toujours jamais eu de retard ni d'absence, sauf pour mon opération. J'ai dit que Miss Kinyan me dit toujours « Charlie, sois fier de ton travail parce que tu le fais bien ». Ils m'ont fait boire des tas de verres et Joe a dit « Charlie est sans sas quand il a un coup dans l'aile. Je pense que ça veut dire qu'il m'aime bien. » On passe de bons moments ensemble, mais je suis impatient de devenir intelligent comme mes meilleurs amis Joe et Frank. Je ne me rappelle pas comment la soirée s'est terminée, mais ils m'ont dit d'aller voir au coin de la rue s'il pleuvait. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Peut-être qu'ils étaient partis me chercher. Je les ai cherchés partout tard dans la nuit, mais je me suis perdu. Et j'étais fâché après moi de m'être perdu, parce que je parie qu'Algernon pourrait aller et venir 100 fois dans toutes les rues sans jamais se perdre comme moi. Et puis, je ne me rappelle plus très bien, mais Madame Flynn dit qu'un gentil agent de police m'a ramené à la maison. 29 mars. J'ai battu Algernon. Je ne savais même pas que je l'avais battu, jusqu'à ce que Burt me le dise. Puis la seconde fois, j'ai perdu, parce que j'étais trop excité. Mais après ça, je l'ai battu 8 fois de suite. Je dois commencer à devenir intelligent pour battre une souris aussi intelligente qu'Algernon. Pourtant, je ne me sens pas plus intelligent. Je voulais encore continuer à faire la course, mais Burt a dit que c'était assez pour cette fois. Il m'a laissé tenir Algernon 1 minute dans ma main. Algernon est une gentille souris, douce comme du coton. Elle clignote des yeux et quand elle les ouvre, ils sont noirs et roses sur les bords. J'ai demandé est-ce que je peux lui donner à manger parce que cela me faisait de la peine de l'avoir battue et que je voulais être gentil avec elle et qu'on devienne amis. Burt a dit « Non, Algernon est une souris très spéciale qui a eu une opération comme la mienne. Elle est le premier de tous les animaux à rester intelligente si longtemps. » Burt dit qu'Algernon est si intelligente qu'elle a à résoudre un problème de serrure qui change chaque fois qu'elle va chercher à manger, de façon qu'elle apprenne quelque chose de nouveau pour avoir sa nourriture. Ça m'a rendu triste, parce que si elle ne pouvait pas apprendre, elle ne pourrait pas avoir à manger et elle aurait faim. Je ne pense pas que ce soit juste de vous faire passer un test pour manger. Est-ce que Burt aimerait avoir à passer un test chaque fois qu'il voudrait manger ? Je pense que je serai ami avec Algernon. Le docteur Strauss m'a donné quelques pilules roses pour me faire bien dormir. Il dit qu'il me faut beaucoup de sommeil parce que c'est alors que la plupart des changements se produisent dans mon cerveau. Ça doit être vrai parce que mon oncle Herman, quand il était sans travail, avait l'habitude de dormir chez nous, sur le vieux divan de la salle de séjour. Il était gros et il trouvait difficilement du travail parce qu'il était peintre en bâtiment et qu'il était devenu très lent à monter et à descendre les échelles. Quand j'ai dit à maman que je voulais être peintre, comme l'oncle Herman, ma sœur a dit « Ouais, Charlie va devenir l'artiste de la famille ». Et papa lui a donné une gifle et lui a dit de ne pas être aussi méchante, bon Dieu, avec son frère. Je ne sais pas ce que c'est qu'un artiste, et si Norma a eu une gifle parce qu'elle l'avait dit, je suppose que ce n'est pas bien. Cela me faisait toujours de la peine quand Norma se faisait gifler parce qu'elle n'était pas gentille avec moi. Quand je serai intelligent, j'irai lui faire une visite. 1er avril. Tout le monde à la boulangerie est venu me voir aujourd'hui quand j'ai commencé à mon nouveau travail au pétrin mécanique. Voilà comment c'est arrivé. Oliver, qui travaillait au pétrin mécanique, est parti hier. J'avais l'habitude de l'aider en lui apportant des sacs de farine pour les verser dans le pétrin. Pourtant, je ne croyais pas que je savais faire encore marcher le pétrin. C'est très difficile et Oliver est allé à l'école de boulangerie 1 an avant de pouvoir apprendre à être aide-boulanger. Mais Joe, qui est mon ami, a dit « Charlie, pourquoi tu ne prends pas la place d'Oliver ?» Tout le monde dans le fournil s'est approché et ils se sont mis à rire. Et Frank a dit « Oui, Charlie, tu es ici depuis assez longtemps, vas-y !» Jim P n'est pas là et il ne saura pas que tu as essayé. Je n'étais pas rassuré parce que Jim P est le chef boulanger et m'a dit de ne jamais approcher du pétrin parce que je risquerais un accident. Tout le monde a dit « Vas-y !» sauf Fanny qui a dit « Arrêtez ! Pourquoi ne laissez-vous pas ce pauvre garçon tranquille ?» Franck a dit « Ferme ça Fanny, c'est le 1er avril et si Charlie fait marcher le pétrin, il l'arrangera peut-être si bien que nous aurons tous une journée de congé. » J'ai dit que je ne pouvais pas arranger la machine, mais que je pouvais la faire marcher parce que j'avais toujours regardé faire Oliver depuis que j'étais revenu. J'ai fait marcher le pétrin mécanique et tout le monde a été surpris, spécialement Franck. Fanny était surexcitée parce qu'elle a dit « Il a fallu à Oliver 2 ans pour apprendre à bien pétrir la pâte et il était allé à l'école de boulangerie ». Bernie, qui s'occupe de la machine, a dit que je faisais plus vite qu'Oliver et mieux. Personne n'a ri. Quand Jimpy est revenu et que Fanny lui a raconté, il s'est mis en colère contre moi pour avoir travaillé au pétrin. Mais elle lui a dit « Regardez et voyez comment il fait le travail ». Les autres voulaient lui faire une blague pour le 1er avril et c'est lui qui les a ridiculisés. Jimpy a regardé et je savais qu'il était fâché contre moi parce qu'il n'aime pas que les gens ne fassent pas ce qu'il leur dit exactement comme le professeur Nemur. Puis il a vu comme je faisais marcher le pétrin et il s'est gratté la tête et il a dit « Je le vois bien, mais je n'arrive pas à le croire ». Puis il a appelé M. Donner et il m'a dit de refaire marcher le pétrin pour que M. Donner voie. Je n'étais pas rassuré, il allait se mettre en colère et me crier dessus aussi. Après avoir fini, j'ai dit « Est-ce que je peux retourner maintenant à mon travail ? Il faut que je balaie le magasin derrière le comptoir ». M. Donner m'a regardé d'un drôle d'air un long moment, puis il a dit « Ça doit être une farce de 1er avril que vous me faites tous, c'est une attrape ». Donc maintenant, au lieu de livrer des paquets et de nettoyer les toilettes et de m'occuper des ordures, je suis le nouvel ouvrier boulanger chargé du pétrin mécanique. C'est un avancement. Demain, je le dirai à Miss Kinyan. Je crois qu'elle sera contente, mais je ne sais pas pourquoi Franck et Joe sont fâchés contre moi. J'ai demandé à Fanny et elle a dit « T'occupe pas de ces idiots, c'est le 1er avril aujourd'hui et leur blague a fait long feu et c'est eux qui ont eu leur bête, pas toi ». J'ai demandé à Joe quelle blague avait fait long feu et il m'a dit d'aller me faire pendre. Je suppose qu'ils sont tous fâchés contre moi parce que j'ai fait marcher le pétrin et ils n'ont pas eu leur jour de congé comme ils croyaient. Est-ce que ça signifie que je deviens plus intelligent ?
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite a guardarle sono quasi immobili lune piene contro il cielo chiaro e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami colorate e immobili così senza legami colorate e immobili così abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è incominciato tutto, chissà, chissà dove è incominciato tutto, chissà, anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso. Le tracce del loro volo anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto, chissà. Tracce percettibili le traiettorie delle mongolfiere e l'uomo l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Il progresse, ce garçon. C'est marrant parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est pas sensible, mais il progresse. Et alors, jusqu'où va aller son intelligence? Va-t-il devenir un génie?
Bah, tu poses une bonne question, Dominique. Jusqu'où cette intelligence
Merci.
Va-t-elle aller? Eh ben, c'est tout l'objet du roman. T'as tout compris. Mais en même temps, faut pas tout résumer à cela, une simple quantité d'intelligence. À travers Charlie, l'auteur va poser bien d'autres questions. Par exemple, le niveau de maturité émotionnelle va-t-il progresser au même rythme que l'intelligence elle-même?
Tout à fait.
Ou
bien
encore,
que nous ne lirons pas de scènes qui parlent de ça aujourd'hui.
Ah, et encore, la quatrième de couverture parlait tout ce monde social dont Charlie avait été exclu jusqu'alors. Est-il aussi beau que le jeune homme l'imagine?
Ses amis sont-ils des vrais amis?
Et voilà, a-t-il de nouveaux amis? Va-t-il perdre ses anciens amis? Des questions sans fin qui se révèlent en fait être passionnantes.
En fait oui, a-t-il des amis? Parce que ses amis qui le plantent au milieu d'un bar sont pas
Exactement.
Forcément de... Eh bien on a hâte de connaître la suite.
Mais même maintenant que j'ai découvert ce qui se passait derrière le dos de M. Donner, je trouve cela difficile à croire. J'ai d'abord remarqué un incident louche pendant l'heure d'affluence, voici deux jours. Jimpy était derrière le comptoir. Il enveloppait un gâteau pour un de nos clients réguliers. Un gâteau qui se vend 3,95 $. Mais quand Jimpy a tapé la vente, la caisse enregistreuse n'a affiché que 2,95 $. J'allais lui dire qu'il avait fait une erreur, mais dans la glace derrière le comptoir, j'ai vu un clin d'œil et un sourire passer du client à Jimpy, et en réponse, un sourire sur le visage de Jimpy. Et quand l'homme a ramassé sa monnaie, j'ai vu briller une grosse pièce d'argent laissée dans la main de Jimpy avant que ses doigts ne se referment sur elle, et le mouvement vif avec lequel il a glissé le demi-dollar dans sa poche. Je m'adossais sans force contre le mur, ne sachant quoi faire. Jimpy travaillait pour M. Donner depuis plus de 15 ans. Donner, qui traitait toujours ses employés comme des amis, comme des parents, avait invité plus d'une fois la famille de Jimpy à dîner chez lui. Il laissait souvent à Jimpy garder le magasin quand il avait à sortir. Et j'avais entendu dire que plusieurs fois, Donner avait donné de l'argent à Jimpy pour payer les frais d'hôpital de sa femme. Il était incroyable que qui que ce soit pût voler un tel homme. Il fallait qu'il y ait une autre explication. Jimpy s'était vraiment trompé en tapant la vente et le demi-dollar n'était qu'un pourboire. Ou peut-être M. Donner avait-il fait un arrangement spécial pour ce client qui achetait régulièrement des gâteaux à la crème. N'importe quoi, plutôt que de croire que Jimpy volait. Jimpy avait toujours été si gentil avec moi. Je ne voulais plus savoir. J'évitais de regarder la caisse enregistreuse quand j'apportais le plateau d'éclairs et quand je tirais les galettes, les pains au lait et les gâteaux. Mais lorsque la petite femme rousse entra, celle qui me pinçait toujours la joue et plaisantait en disant qu'il fallait qu'elle me trouve une petite amie, je me souvins qu'elle venait le plus souvent quand Donner était parti déjeuner et que Jimpy était au comptoir. Jimpy m'avait souvent envoyé livrer des commandes chez elle. Involontairement, je fis mentalement le total de ses achats, $4.53. Mais je me détournais afin de ne pas voir ce que Jimpy tapait sur la caisse enregistreuse. Je voulais savoir la vérité, et pourtant j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. $2.45, Madame Wheeler, annonça-t-il. La sonnerie de la caisse, la monnaie que l'on compte, le claquement du tiroir. « Merci, Madame Wheeler !» Je me retournai juste à temps pour le voir mettre sa main dans la poche et j'entendis un tintement léger de pièces. Combien de fois s'était-il servi de moi comme d'un intermédiaire pour lui livrer des paquets en les débitant au-dessus du prix du pain afin de pouvoir partager la différence avec elle ? S'était-il servi de moi pendant toutes ces années pour l'aider à voler ? Je ne pus quitter Jimpy des yeux tandis qu'il clopinait derrière le comptoir, la sueur coulant de dessous son bonnet de papier. Il semblait gai et de bonne humeur, mais en levant les yeux, il accrocha mon regard, fronça les sourcils et se détourna. J'avais envie de le frapper. J'avais envie de passer derrière le comptoir et de lui casser la figure. Je ne me rappelle pas avoir jamais haï quelqu'un avant, mais ce matin-là, je haïssais Jimpy de toutes mes forces. 10 mai. Je suis alors allé voir Miss Kinyan. Charlie, tu me stupéfies. À certains points de vue, tu as fait d'immenses progrès, et pourtant, quand il s'agit de prendre une décision, tu restes comme un enfant. Je ne peux pas décider à ta place, Charlie. La solution ne peut pas se trouver dans les livres ou en la demandant à d'autres personnes, à moins que tu ne veuilles rester un enfant toute ta vie. C'est à toi de trouver cette solution en toi, de sentir comment bien agir. Charlie, il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. J'ai d'abord été ennuyé de ce sermon, puis soudain j'ai commencé à comprendre. Vous voulez dire qu'il faut que je décide moi-même ? Elle hocha la tête. « En fait, dis-je, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai déjà un peu décidé. Je pense que Nemur et Strauss sont tous les deux dans l'erreur. » Elle m'observait de près, très émue. « Tu deviens différent, Charlie. Si seulement tu pouvais voir ton visage. » « Vous avez diablement raison, je deviens différent. J'avais un nuage de fumée devant les yeux et d'un souffle, vous l'avez chassé. Une idée toute simple, avoir confiance en moi. Elle ne m'était jamais venue auparavant. Charlie, tu es extraordinaire. Je saisis sa main et je la serrai. Non, c'est vous, vous avez touché mes yeux et vous m'avez fait voir. » 11 mai. Après tant de réflexions et de tourments, je me suis rendu compte qu'Alice avait raison. Il fallait que je me fie à mon intuition. À la boulangerie, j'observais Jimpy de plus près. Trois fois aujourd'hui, je le vis compter moins cher aux clients et empocher sa part de la différence quand les clients lui rendaient quelques monnaies. Ce n'était qu'avec certains clients réguliers qu'il le faisait, et il me vint à l'esprit que ces gens étaient aussi coupables que lui. Cet arrangement n'aurait pas pu exister sans leur accord. Pourquoi Jimpy serait-il le bouc émissaire ? Je me décidai alors pour un compromis. Ce n'était peut-être pas la décision idéale, mais c'était la mienne et elle me sembla être la meilleure solution étant donné les circonstances. Je dirai à Jimpy ce que je savais et je lui conseillerai vivement de cesser. Je le trouvai seul près des toilettes. Quand il me vit venir à lui, il voulut s'éloigner. « Je voudrais vous parler d'un problème sérieux sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Un de mes amis a découvert que l'un de ses compagnons de travail vole son patron. L'idée de le dénoncer et de lui causer des ennuis ne lui plaît pas, mais il ne veut pas rester là à voir voler son patron, qui a été bon pour tous les deux. » Jimpy me regarda d'un œil scrutateur. Et qu'est-ce que ton ami envisage de faire ? C'est là la difficulté. Il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Il se dit que si les vols cessent, il n'y a rien à gagner à faire quelque chose et il oubliera tout cela. Ton ami ferait mieux de s'occuper de ses propres affaires, dit Jimpy en changeant son pied de position. Il ferait mieux de garder les yeux fermés sur ce genre de choses et de savoir où sont ses vrais amis. Un patron est un patron et les gens qui travaillent doivent se soutenir. Mon ami ne partage pas ce sentiment. Tout cela ne le regarde pas. Il pense que puisqu'il sait, il est partiellement responsable. Il a donc décidé que si ça s'arrête, il n'aura rien de dire de plus. Sinon, il dira tout. Je voulais vous demander votre opinion. Pensez-vous que dans ces conditions, les vols cesseront ? Il avait du mal à cacher sa colère. Je voyais qu'il avait envie de me frapper, mais il se contenta de serrer ses poings. « Dis à ton ami que le gars ne semble pas avoir d'autre choix. »« C'est très bien, dis-je, ça lui fera grand plaisir. » Jimpy s'en alla, mais il s'arrêta et me regarda. « Ton ami, est-ce que par hasard il n'aurait pas envie d'avoir sa part ? Est-ce cela sa raison ? » ?»« Non, il veut simplement que toute cette affaire cesse. » Et il me lança un regard furieux. « Je te le dis, tu regretteras d'avoir fourré ton nez là-dedans. Je t'ai toujours soutenu, j'aurais dû me faire examiner la tête. » Et il s'éloigna.
You came into my life. I thought that I was dreaming because you showed me new dance for life. Enveloppez-moi, attentivement, chalet dans tes besoins. Ou chanter en d'autres mélodies, bon moi. Les opposés, si a aussi moins. Ou reconnaître, non, mon moi. En partie, besoin caché encore. You, my angel in disguise. I saw your wings one night, I knew you. Hot love in your hands, hot love in your words. Oh, dis-moi, où aimez-moi, avant même où te connaître-moi. Quand si nous t'es joint en d'autres chemins. Oh, gambez-moi, enveloppez-moi, là dans chalant tes besoins. Ou chanter en d'autres mélodies pour moi. Beautiful, beautiful, beautiful. I don't wanna let you go until I tell you that I love you. Beautiful, beautiful, beautiful. You're my body and soul. So perfectly designed. Tu as chanté, moi ça vous. Connaître Kylie, liberté, sape ses vérités. Close to you, around you, my heart is singing a new song. Words and melody coming from you. Comfort you, holding you, this is my own fantasy. Just wanna breathe the air surrounding you. Beautiful, beautiful, beautiful. I don't wanna let you go until I tell you that I love you. Beautiful, beautiful, beautiful. You're mind, body and soul. So perfectly designed.
Bien, il nous reste un petit peu de temps. Et en même temps, Hervé, on a envie de savoir jusqu'où cette intelligence va se développer. Au début de l'émission, la quatrième de couverture a laissé entendre qu'elle allait décliner. Tout du moins, la décliner chez la souris Algernon ou Algernon. Donc comment ça va se passer? Je sais bien que c'est pas bien de révéler la fin d'un bouquin, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Eh bien, ça tombe bien, je vais vous en lire un petit peu plus. Ah, bon, j'ai choisi de vous lire une dernière scène qui est située à peu près au milieu du livre, mais qui laisse entrevoir la suite. Je dicte ceci en proie à une grande tension émotionnelle. Je suis parti en abandonnant toute l'affaire. Je suis dans un avion qui me ramène seul à New York et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire une fois arrivé. D'abord, il me faut avouer que j'étais très impressionné à la pensée d'un congrès international de savants et de chercheurs réunis pour un échange d'idées. C'était là, pensais-je, que tout se passait vraiment. Là, ce serait autre chose que des discussions stériles du collège, parce que les participants appartenaient au plus haut sommet de la recherche et de l'enseignement en psychologie. C'étaient des savants qui écrivaient des livres et qui faisaient des conférences, des autorités que les gens citaient. Si Nemur et Strauss étaient des hommes ordinaires et qui œuvraient au-delà de leurs capacités, j'étais persuadé que ce serait différent pour les autres. Les gens qui se pressaient dans la grande salle de bal s'écartèrent pour nous laisser passer le passage. Et Nemur salua de la main les reporters et les photographes qui étaient venus pour entendre de leurs propres oreilles les résultats sensationnels obtenus avec un adulte attardé en un peu plus de 3 mois seulement. Nemur avait de toute évidence envoyé d'avance des communiqués à la presse. Après que le président de séance eut annoncé la communication de l'université Beckman, nous avons pris place derrière la longue table sur l'estrade, Algernon dans sa cage entre Burt et moi. Nous étions le clou de la soirée et lorsque nous fûmes installés, le président entama sa présentation. Je m'attendais presque à l'entendre clamer « Mesdames et messieurs, prenez vos places, prenez vos billets, entrez voir nos phénomènes. Un spectacle comme on n'en a jamais vu dans le monde scientifique. Une souris et un idiot transformés en génie sous vos propres yeux. » J'avoue que j'étais venu avec une certaine idée préconçue. Il se contenta de dire « La communication qui va vous être faite n'a vraiment pas besoin d'être présentée. Nous avons tous entendu parler des recherches extraordinaires faites à l'université Beckman grâce à l'appui de la fondation Wellberg et conduites par le directeur du département de psychologie, le professeur Nemur, en collaboration avec le docteur Strauss du centre neuropsychiatrique Beckman. » Il est inutile d'ajouter que c'est une communication que nous attendons tous avec le plus vif intérêt. Je passe la parole au professeur Nemur et au docteur Strauss. Nemur inclina aimablement la tête aux éloges introductifs du président et adressa à Strauss un clin d'œil de triomphe. Je commençais à m'énerver et je voyais qu'Algernon, incommodé par la fumée, le brouhaha et l'environnement inhabituel, tournait nerveusement dans sa cage. J'eus la plus étrange envie d'ouvrir sa cage et de la laisser sortir. Je n'avais rien à reprocher à Burt. Il avait toujours été honnête avec moi, plus que la plupart des autres. Mais quand il décrivit la souris blanche à laquelle avait été donnée l'intelligence, il fut aussi pompeux et aussi artificiel que les autres. J'avais le doigt sur la clenche de la porte de la cage, et tandis qu'Algernon suivait de ses yeux roses le mouvement de ma main, je suis certain qu'elle savait ce à quoi je pensais. À ce moment, Burt prit la cage pour sa démonstration. Il expliqua la complexité du verrou à combinaison et la difficulté du problème posé à chaque fois que la serrure devait être ouverte. De petits loquets de plastique s'enclenchaient selon des combinaisons variées et devaient être commandés par la souris qui actionnerait une série de leviers dans le même ordre. À mesure que l'intelligence d'Algernon s'était accrue, sa rapidité à résoudre le problème avait augmenté, c'était évident. Mais Burt révéla une chose que je n'avais pas su. À l'apogée de son intelligence, la manière d'agir d'Algernon était devenue variable. Certaines fois, selon le rapport de Berthe, Algernon refusait absolument de travailler alors même qu'elle avait apparemment faim. D'autres fois, elle résolvait le problème, mais au lieu de profiter de sa récompense en nourriture, elle se jetait contre les parois de sa cage. Je compris immédiatement que cette information m'avait été cachée. J'étais venu là comme un élément faisant partie d'une communication scientifique et je m'attendais à être donné en spectacle, mais tout le monde continuait à parler de moi comme si j'étais une sorte d'objet nouvellement créé qu'on présentait au monde scientifique. Personne dans cette salle ne me considérait comme un être humain. La constante juxtaposition Algernon et Charlie, Charlie et Algernon montraient clairement qu'ils nous considéraient tous les deux comme une paire d'animaux d'expérience, sans aucune existence en dehors du laboratoire. Mais non, mon sentiment de colère mis à part, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose clochait. Enfin, ce fut au tour de Némur de parler. Il récapitula le tout en tant que directeur de l'expérience et de se mettre en vedette comme l'auteur d'un brillant exploit. C'était pour lui le jour tant attendu. Il faisait grande impression, debout sur l'estrade, et tandis qu'il parlait, je me sentis hocher la tête avec lui, d'accord sur des faits que je savais être vrais. Des tests, l'expérience, l'intervention chirurgicale et le développement mental qui s'ensuivit furent décrits longuement et son discours fut égayé par des citations de mes comptes rendus. Plus d'une fois, je dus entendre des réflexions intimes ou sottes lues devant toute l'assistance. Puis, à un endroit de son résumé, il dit « Nous qui avons travaillé à cette expérience à l'université Beckman avons la satisfaction de savoir que nous avons pris une erreur de la nature et que par nos techniques nouvelles, nous en avons fait un être humain supérieur. Quand Charlie est venu à nous, il était hors de la société, seul dans une grande ville, sans amis ni parents pour s'occuper de lui, sans l'équipement mental nécessaire à une vie normale, sans passé, sans contact avec le présent, sans espoir pour l'avenir. On pourrait dire que Charlie Gordon n'existait pas réellement avant cette expérience. » Je ne sais pas pourquoi cela m'irrita si intensément de les entendre parler de moi comme d'un article tout nouvellement fabriqué dans leurs usines privées. Je voulais me lever, montrer à tous quel imbécile il était et lui crier « Mais je suis un être humain, une personne avec des parents, des souvenirs et une existence. Et j'étais avant que vous ne me poussiez sur un chariot dans une salle d'opération. » Que le diable l'emporte, il ne savait pas de quoi il parlait. À ce moment, la tentation fut plus forte que moi. Fasciné, je vis ma main bouger, indépendamment de ma volonté, tirer le verrou de la cage d'Algernon. Quand je lui ouvris, elle me regarda, marqua un temps, puis elle se retourna, fila comme une flèche hors de sa cage et fonça au galop à travers la longue table. D'abord, on la vit à peine sur le damas qui recouvrait la table, une vague tache blanche, jusqu'à ce qu'une femme hurle, culbutant sa chaise et se dressant sur ses pieds. Autour d'elle, les carafes d'eau se renversèrent, puis Berthe cria « Algernon s'est échappé !» Algernon sauta de la table sur l'estrade et de l'estrade sur le plancher. « Rattrapez-la ! Attrapez-la !» glapissait Namur. « Cours, cours !» m'entendis-je crier. « Par la porte latérale !» « Elle s'est enfuie par la porte latérale !» s'écria quelqu'un en écho. « Attrapez-la ! Attrapez-la !» implorait Némur. La foule sortit de la salle de bal et se répandit dans les couloirs, tandis qu'Algernon, galopant sur la moquette marron du hall, les faisait drôlement courir. Sous les tables Louis XV, autour des palmiers en pot, grimpant les escaliers, prenant des tournants, dégringolant les escaliers, dans le grand hall, ameutant d'autres gens au passage. Les voir tous courir de droite et de gauche dans le hall, à la poursuite d'une souris blanche plus intelligente que beaucoup d'entre eux, était le spectacle le plus drôle qu'on ait vu depuis longtemps. « Tu peux rire, grogna Némur, qui se cogna presque à moi. Si on ne la retrouve pas, toute l'expérience est fichue. » « Qu'est-ce que vous croyez ? » dis-je. « Vous avez fait une erreur et à partir d'aujourd'hui, cela n'aura peut-être plus d'importance du tout parce que mon intelligence va décroître. » Quelques secondes après, une demi-douzaine de femmes sortirent en criant des toilettes, serrant frénétiquement leurs jupes autour de leurs jambes. « Elle est là !» cria quelqu'un. Mais un instant, la foule des poursuivants fut arrêtée par l'inscription sur le mur « Dame ». Je fus le premier à franchir cette barrière invisible et à entrer dans le sacro-saint lieu. Algernon était penché sur l'un des lavabos, les yeux braqués sur son reflet dans le miroir. « Allons, viens !» dis-je. « On va s'en aller tous les deux d'ici. » Elle se laissa prendre et je la mis dans ma poche de ma veste. « Reste tranquille là-dedans jusqu'à ce que je te le dise. » Je fermai la porte derrière moi et tapotai ma poche. Un museau rose et une touffe de poils blancs apparurent et jetèrent un coup d'œil sur les alentours. « Je vais faire mes valises, dis-je, et nous filerons, rien que toi et moi, une paire de génies fabriqués par l'homme en fuite. » En parlant de tout cela, je me sens mieux, et même un peu nigaud. Je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis tellement énervé, ni ce que je fais dans ce jet qui vole vers New York, avec Algernon dans une boîte à chaussures sous mon siège. Il ne faut pas que je m'affole. L'erreur ne signifie pas nécessairement que ce soit grave, simplement que le résultat n'est pas aussi assuré que le croyait Némur. Je n'aurai peut-être pas tous les temps que je pensais avoir.
Bien, c'était donc le dernier extrait. Donc, tu n'as pas tout dévoilé, bien sûr.
Ah ben non, absolument. La scène que je viens de vous lire était située environ vers le milieu du bouquin. Mais on imagine bien la suite quand même. Mais comment ça va se passer? C'est là la question.
C'est là qu'il faut lire.
Va-t-il manger la souris? Je n'ai pas dû suivre.
T'as raté quelque chose. Bien. Tu nous rappelles le titre de ce livre passionnant?
Alors, c'est « Des fleurs pour Algernon ». L'auteur s'appelle Daniel Keiss. Voilà, la dernière édition, c'est en poche, il y a une dizaine d'années. Je crois que c'est sorti, mais ça peut se trouver dans n'importe quelle librairie.
C'est facile à trouver.
Au pire, en le commandant.
On précise bien que l'auteur est américain.
Voilà, et sinon, au pire, vous pouvez aller en bibliothèque aussi.
Bien sûr, on trouve tout dans les bibliothèques.
Oui, parce que c'est quand même un roman qui a été publié donc, en 1966. Donc l'édition originale, il n'y en a peut-être plus trop. Voilà. Et ce qui est intéressant à dire, c'est qu'en 1959, il avait d'abord publié une nouvelle dans un recueil de nouvelles avant d'écrire ce roman, donc 6 ou 7 ans avant. Voilà.
Je me demande vraiment comment j'ai fait pour passer à côté de ce livre.
Bah, qu'est-ce que
c'est
veux...
même pas son existence.
Nul n'est parfait. Hein.
Absolument.
On en a la preuve.
Allez, je crois qu'il vaut mieux qu'on se dise au revoir.
Quoi? Tu ne nous poses pas la question habituelle?
Ah ben si.
Eh bien, la question habituelle, eh bien, posez-la vous-même, tiens, pendant qu'on y est.
Catherine, qu'est-ce que tu vas nous lire la prochaine fois?
Oh, t'as vu comment ils tournent les choses? Eh bien, le pire, c'est que je vais vous le dire.
Eh oui.
Il s'agit de Madame Hayat. C'est un roman de Ahmet Altan qui est sorti en septembre 21, donc il n'est pas si vieux que ça.
C'est de quelle nationalité?
Alors c'est un Turc, et j'ai pensé à ça parce qu'on a parlé malheureusement pour de tristes raisons beaucoup de la Turquie en ce moment.
Ah oui.
Et voilà, c'est un roman turc qui se passe en Turquie et qui nous donne une image de la Turquie contemporaine.
D'accord. Alors si on parle de littérature turque, moi je vous conseille Yaşar Kemal.
Voilà.
Il y a des choses qui sont
magnifiques.
Très bien, eh bien, chers auditeurs, au revoir, au mois prochain. Au revoir Hervé.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Catherine. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur studiozef.fr et que l'émission est diffusée le vendredi après-midi à 14h sur 91.1. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.